Bonjour, merci d'écouter cette danse des mots qui aujourd'hui va à la rencontre d'Ananda Devi, une romancière qu'on connaît bien à la danse des mots, ne serait-ce que par son polyglottisme. Elle est mauricienne, elle est née à l'île Maurice, non seulement ça, mais elle est née à trois boutiques. Oui, elle aurait voulu le faire, hein, trois boutiques linguistiques au moins, puisqu'elle parle le créole mauricien, le français et l'anglais, peut-être d'autres langues d'ailleurs. Alors récemment aux éditions Bruno Doucet, elle a fait paraître Ceux du large, un recueil de poèmes en édition trilingue justement, créole mauricien, français et anglais. Donc elle a le choix de la langue et la plupart de ses romans sont écrits en français. Elle a publié aux éditions Grasset il y a quelque temps Manger l'autre, c'est de cela que j'ai voulu la faire parler. Bonjour Ananda Devi.
Bonjour Yvan.
Manger l'autre, je vous interrogerai bien sur votre titre d'abord. Comment est-ce que on peut l'entendre et comment est-ce que vous, vous l'entendez? Non pas que signifie manger, on le sait tous plus ou moins, mais qui est cet autre plutôt? Puisque c'est dans la compréhension de ce titre qu'on va aborder la lecture d'une façon ou d'une autre.
Oui, en fait, il y a plusieurs manières de le voir, évidemment, mais déjà il s'agit d'une jeune fille obèse et qui est dans un rapport avec le corps qui est assez extraordinairement puissant et douloureux et vraiment elle est dans un malaise par rapport à elle-même.
Oui, un rapport extrême, on peut dire quand même.
Extrême, exactement. Oui. Mais à l'origine, son père, pour essayer de lui expliquer la raison de son obésité, lui dit que quand elle était encore dans le ventre de sa mère, qu'elles étaient des jumelles. Et qu'elles se sont fusionnées d'une certaine manière. Et donc ma narratrice finit par se persuader qu'elle a dévoré sa jumelle, qu'elle aurait dévoré sa jumelle dans le ventre de sa mère. Et donc déjà là, il y a cette idée de manger l'autre. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est le regard de la société sur les personnes qui sont hors normes. Et c'est un regard qui est aussi très, très destructeur, qui va vraiment dévorer cette fille, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers toute cette normalisation du corps. Et donc, c'est aussi la société qui va manger l'autre. Donc, nous nous cannibalisons les uns les autres.
Donc, on la voit, cette petite fille, puis cette jeune fille, totalement persécutée, à la fois par son corps, par le rapport qu'elle entretient à son corps, mais aussi par le regard que la société porte sur elle, qui est un regard au mieux moqueur et au pire totalement persécutif d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement qui parle. Ce roman de l'extrême avec ce personnage qui apparaît et qui fait penser même de temps en temps à Rabelais au début, puisqu'on voit que c'est un personnage qui est monstrueux dès la conception. C'est-à-dire in utero, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus gros que nature. Et vous dites c'est un bébé qui naît avec un poids de 10 kilos. Bon, disons que c'est pas possible, je pense pas qu'il y ait des bébés qui naissent à 10 kilos, mais on la voit qui, dès sa naissance, dès l'aube de sa vie, est totalement hors norme. Mais qui est ce personnage? Est-ce qu'il est un ou est-ce qu'il est deux? Est-ce qu'il est double? Et est-ce que cette duplicité, d'une certaine façon, est à la base de cet excès? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui lui permet de vivre? Ce qui est étonnant, c'est de voir que le personnage dit parfois « je » et presque parfois « nous ».
Oui, parce que, effectivement, avec la gémellité factice que lui a créée son père, elle a un peu l'impression d'être double. Elle a aussi quelqu'un à l'intérieur d'elle qui l'habite, qui la suit comme une ombre. Mais en même temps, elle a une grande lucidité aussi qu'elle exprime souvent avec une sorte d'ironie mordante envers elle-même, parfois féroce, parfois désespérée. Mais disons que le centre de ce roman, c'est le corps de cette fille, de cette jeune femme. Il n'y a pas de lieu qui est vraiment nommé, en tout cas, ni vraiment décrit. Ce qui est la première fois que je ne nomme pas un lieu dans un de mes romans, mais c'est son corps qui est son pays, qui est son lieu, qui est son espace, et donc parfois l'espace devient complètement étriqué autour d'elle, l'emmure littéralement à un moment donné, Et d'autres fois, l'espace est aussi grand que l'est son imagination, son imaginaire, qui rêve de voyage, qui rêve d'une vie normale. Donc elle est à la fois double, mais aussi résolument un individu, une personne qui se bat pour être ce qu'elle est et telle qu'elle est.
Alors, est-ce que vous accepteriez de nous en lire un petit extrait, justement ?
Au début, on ne comprend pas très bien comment le corps perd ses repères naturels et oublie la légèreté, transforme la lourdeur en présence amie. Comment il s'amplifie et se déforme au jour le jour sans qu'on y prenne garde. J'ai été, bien sûr, hors norme dès ma naissance. J'ai été toute ma vie une anomalie. Mais même si je savais que je ne serais jamais mince, comment pouvais-je deviner vers quels lieux extrêmes m'entraînerait mon corps ? Je ne savais pas que je serais plus que ronde, potelée, bien en chair, forte, plantureuse, tous ces qualificatifs qui taisent l'adjectif cruel, grosse. Par la suite, le mot grosse lui-même est devenu insuffisant. Il a fallu en trouver d'autres, éléphantesques, gigantoïdes, d'une hyper-adiposité foudroyante. Mon miroir de mots se tarissait trop vite pour que je puisse continuer à y être réfléchi. Mon hypothalamus était en dysfonctionnement total. Il me dictait de manger même quand ce n'était pas nécessaire. Il faisait de la nourriture mon seul but et mon seul besoin. Je m'éveillais avec des images de paradis calorifiques qui m'inondaient l'essence et ne me laissaient aucun répit tant que je n'avais pas assouvi mes envies et comblé le vide de mon estomac. Tant que je n'avais pas offert à ma masse graisseuse quelques millimètres de plus d'un cadeau empoisonné.
Merci bien, Ananda Devi. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ce roman est celui d'une dévoration qui ne s'arrête pas ? Puisque, en tout cas, dans toute la première partie du roman, on voit cette pulsion à manger qui mange d'une certaine façon votre héroïne dans laquelle elle s'épuise.
On pourrait aussi dire que c'est un peu une allégorie de la société telle qu'elle est, qu'on est dans une espèce de parcours, de cheminement pléthorique, de l'excès, de l'abondance. Et paradoxalement, plus une partie du monde a accès à toute cette abondance, et plus une autre, comme dans des vases communicants, perd tout ce dont elle a besoin pour la survie. C'est un peu cette espèce de dévoration les uns des autres, à la fois une sorte de prédation de l'humain contre lui-même.
Oui, dont témoigne bien d'ailleurs la couverture du livre. Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors c'est difficile de décrire une image pour des gens qui ne la voient pas, mais on voit une sorte de cercle de quatre petits diablotins qui se mangent les uns les autres.
Oui, je trouve que cette illustration est très très réussie parce qu'elle est à la fois féroce et en même temps il y a une sorte peut-être d'humour grinçant aussi caché dedans. Il y a aussi cet aspect où les jeunes filles de son âge, les adolescentes, sont celles qui la persécutent le plus, qui sont toujours à l'affût d'elle, à mettre des photos d'elle sur Internet, à se moquer, mais avec une virulence et une violence terrible. Donc il y a plusieurs aspects où cette idée de dévorer l'autre entre dans cette histoire, mais finalement c'est vrai que la nourriture est au centre aussi, parce que vraiment quand on voit des réfugiés qui traversent l'océan, qui traversent des déserts sans rien à manger avec leurs enfants et qui essaient de trouver un lieu où ils peuvent se poser, où ils peuvent être en sécurité, où ils peuvent trouver quelque chose, et que dans ces lieux où ils pensent arriver et où il y aura quelque chose pour eux, ces lieux où il y a trop, il y a un superflu, un surplus, où on jette de la nourriture sans cesse, ces lieux-là leur sont fermés. Et donc, alors qu'il y a suffisamment de nourriture dans le monde pour tous, je ne veux pas faire... Ce n'est pas un livre... disons qu'il y a un message ou quoi que ce soit particulier, mais quelque part c'est dans cette réflexion de comment l'humanité s'entre-dévore et comment on devient aussi asservi à la nourriture, esclave de la nourriture et esclave de l'apparence.
Alors, le personnage de cette jeune fille est bien sûr central dans votre livre. Ce n'est pas le seul. Et il y a un personnage qui arrive en miroir, mais quand même tout au long du livre, c'est le personnage de son père, qui est tout à fait étonnant parce que aimant, trop aimant, maigre et trop maigre, parfait, séduisant, mais peut-être trop parfait, trop séduisant, il s'adresse à elle en général au pluriel, comme s'il s'adressait à elle et à sa sœur dévorée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Pourquoi? Comment ça vous est venu, cette trouvaille narrative, d'une certaine façon, du père qui parle à sa fille, comme s'il y en avait deux et comme si les deux jumelles étaient encore là?
Alors, je ne saurais pas dire comment m'est venue cette idée-là. Je savais que je voulais un personnage de père très fort, mais aimant, parce que souvent, dans mes livres, mes romans précédents, Les pères étaient terribles, étaient d'une violence absolument abominable.
Voilà, Nanda Devi, vous vous rattrapez un peu par rapport aux images paternelles en général. Voilà,
au contraire, là, c'est la mère qui est absente, qui ne peut pas faire face, et c'est le père qui prend en charge cet enfant.
Oui, et c'est un père-mère, d'une certaine façon. C'est un père très double, c'est un père qui a les deux fonctions et les deux sexes.
Oui, il remplit tout dans la vie de sa fille, et elle remplit sa vie aussi. Alors, comment est venue l'idée de ces jumelles dédoublées? Vraiment, je ne saurais le dire. C'est peut-être la magie du roman. C'est-à-dire quand on commence à écrire quelque chose avec une idée, et puis tout d'un coup, il y a une sorte de petite fulgurance qui arrive, et où quelque chose d'autre apparaît au milieu de l'histoire envisagée. Et là, cette histoire des jumelles... que le père va rendre réelle presque en traitant sa fille comme si elles étaient deux, au point où la jumelle absente se manifeste même au regard de la narratrice. C'est quelque chose qui est venu un peu se greffer dans l'histoire. Et finalement, on comprend que psychologiquement, le père essaie d'expliquer à sa fille son obésité, la source de son obésité. Il essaie de la déculpabiliser en la nourrissant de nourriture extraordinairement délicieuse et riche.
Et la déculpabilisant, ou tâchant de la déculpabiliser... Oui. Il alimente, si on peut dire, cette obésité et cette monstruosité.
Voilà, exactement. Donc il finit par être celui qui va la détruire aussi, mais détruire par amour, par générosité, et elle le comprend aussi très bien cela.
Manger l'autre dans la danse des mots, toujours avec vous, Ananda Devi, puisque ce roman vient de paraître aux éditions Grasset. Et il m'a semblé, depuis que je lis des romans de vous, c'est-à-dire depuis quand même maintenant pas mal d'années, que petit à petit, vous vous éloignez d'une sorte de réalisme. Vous dites vous-même que c'est le premier roman qui n'est pas situé dans l'espace, dans un pays. C'est un roman qui est une sorte de farce tragique. Est-ce que ça correspond à la même écriture romanesque? Est-ce que vous avez l'impression que vous cheminez, que vous écrivez un texte comme celui-ci de façon extrêmement différente des romans très cruels de temps en temps qui se passaient à Rodrigue, qui se passaient à Maurice, ou qui se passaient en Inde, ou qui se passaient ailleurs, et qui avaient un rapport réaliste beaucoup plus évident au monde qui nous entoure?
Oui, je pense que c'est le cas, que ce roman est quand même différent des autres. Alors, tout en ayant des similitudes dans certaines obsessions, disons, qui apparaissent, comme par rapport à la monstruosité, à l'apparence, à la solitude, mais ce n'était pas volontaire. Je ne me suis pas dit, en commençant à écrire ce roman, qu'il allait se démarquer des autres, mais c'est vrai que par rapport au lieu, alors que dans tous mes précédents romans, le lieu était très important pour ancrer l'histoire, là, comme il y avait une partie un peu, disons, un aspect de fable aussi, de fable moderne, je voulais qu'elle soit... qu'elle puisse se passer n'importe où. Enfin, on sait que c'est dans un pays riche, parce qu'il n'y aurait pas autant de nourriture, mais elle pourrait se situer n'importe où. Et puis aussi, je crois que chaque roman... quelque part crée sa propre écriture, son propre univers. Et dans celui-ci, je ne voulais pas juste raconter l'histoire d'une jeune fille obèse, je voulais qu'elle aille jusqu'au bout de cela, et en mettant en exergue la phrase de Henry Miller, donc, qui dit que être humain, c'était devenu trop étroit pour lui, et il voulait vraiment, il pensait que être inhumain était ce qui lui permettrait d'aller jusqu'au bout de lui-même. Et finalement, je voulais que cette jeune fille sorte du cadre humain, qu'elle explose, justement. Déjà, elle explose physiquement, mais qu'elle puisse exploser dans son imaginaire. Et comme il y avait cet aspect assez moderne du rapport à Internet, au monde virtuel, aux réseaux sociaux, c'est aussi un monde quelque part protéiforme, qui est un monde qu'on pourrait voir un peu comme dans un film de science-fiction, comme une espèce de bête tentaculaire qui entre dans nos moindres espaces, dans toute notre intimité. Donc il y avait aussi cet aspect-là où on est hors des limites presque physiques, je dirais, de la géographie ou de l'histoire. Donc je crois que c'est un roman qui a un peu dicté sa propre écriture, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça a été, ça m'a beaucoup remué en l'écrivant, bien sûr, surtout la fin, où je me suis demandé mais où est-ce que j'allais. Et il m'a été difficile, un peu comme avec le Sahara hiver, il m'a été difficile d'en sortir et même là de passer à autre chose. Je ne sais pas trop où je vais aller.
Il reste un point d'orgue du roman après que vous avez fini de l'écrire, là.
Oui.
Bah, là, vous êtes un petit peu dans la situation de la parturiente. Le roman est sorti il y a quelques jours. C'est vous qui accouchez de votre roman.
Bah, en général, quand un roman est publié et sort, je suis déjà passée à autre chose, donc je le laisse vivre sa vie un petit peu. Mais là, c'est vrai que c'est un peu mon bébé, le dernier bébé, donc j'ai envie de l'accompagner et d'être plus présente dans sa vie.
Est-ce que vous avez déjà pensé au théâtre, Ananda Devi? Je disais tout à l'heure que j'avais lu beaucoup de romans de vous, je pense tous ceux qui sont, en tout cas, qui sont parus. Mm-hmm. Celui-là est différent des autres, et je ne sais pas si c'est très personnel, il m'a fait penser au théâtre. Il m'a fait penser que ça pouvait faire rêver un metteur en scène sur le rapport, justement, entre un personnage monstrueux, comme on peut être sur une scène de théâtre, avec une mise en scène tout à fait particulière et un rapport au dedans et au dehors, très particulier, qui pouvait se prêter justement à une théâtralité.
J'aurais beaucoup aimé écrire pour le théâtre, mais j'y pense très régulièrement. Par contre, je ne pense pas que j'ai vraiment un don pour les dialogues. Je trouve difficile d'écrire des dialogues, mais effectivement, celui-ci...
On n'écrit pas uniquement ou pas forcément des dialogues au théâtre. Il peut y avoir un monologue, mais je pensais simplement à la mise en scène. Mmh. Il est certain que ce texte tel que je l'ai lu m'évoquait une mise en scène et que je me disais, j'aimerais bien ça justement... moi, assis dans un fauteuil et regardant, un peu fasciné, quelque chose d'un petit peu monstrueux qui se montre.
Oui, ben, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « je le verrais bien en film ». Donc voilà, ça se rapproche.
Mais c'est pas si loin, ça peut être aussi un film, mais quelque chose qui en effet débouche sur du visuel et une occupation de l'espace, une idée de l'espace.
Oui, ben, c'est étonnant parce que, en fait, l'idée m'est venue à partir d'un visuel, c'est-à-dire je suis rentrée dans une galerie d'art et j'ai vu une peinture d'une femme, pas forcément morbidement obèse, mais très grosse, mais l'artiste l'avait peinte d'une manière où il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de rejet, il n'y avait pas de malaise, c'était juste un corps offert, et ça m'avait beaucoup frappé. C'est ça qui m'a fait penser un peu à ce regard. Et comment est-ce que, quand on voit le corps d'une personne obèse, on a une réaction très viscérale, c'est-à-dire que parmi toutes les apparences des corps, celle-là est la plus peut-être difficile à accepter ou à intégrer.
En tout cas, dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est quelque chose, en effet, qui est extraordinairement censuré, presque plus que n'importe quelle autre distance par rapport à la norme, quoi.
Absolument, c'est ce qui m'a, enfin, c'est la réflexion que je me suis faite. Et je le vois d'après aussi les premières réactions que j'ai avec des lecteurs, qu'il y a un malaise qui se crée. Quand je décris une scène d'amour, par exemple avec entre cette femme et cet homme qu'elle rencontre, où je décris de manière assez graphique, parce que c'était ce que je voulais faire.
Et qui est l'une des scènes les moins tragiques, on peut dire, du roman, où vraiment c'est l'une des rares scènes, disons, de plaisir.
Oui, et pour moi, oui, c'était le moment où justement...
Où quelque chose peut-être est possible. Et puis en fait, ça ne l'est pas vraiment. Mais il y a le rêve que quelque chose est possible.
Oui, et il y a un moment où le regard donc, de l'autre change sur elle et change son propre regard, lui dit qu'elle est belle.
Ananda Devi, Manger l'autre, c'est un roman. Est-ce que vous avez pensé que ça pourrait donner une forme plus visuelle, théâtrale, cinématographique? Parce qu'il semble que ça s'y prête d'une certaine façon, cette occupation de l'espace par ce corps monstrueux et ce rapport à l'espace qui reste ou bien à l'espace que ça occupe, ça pourrait donner matière à un traitement un peu différent de celui d'un roman.
Oui, je n'y ai pas forcément pensé, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le corps est le lieu où cette histoire se passe. Donc, il n'y a pas de pays, il n'y a rien. Tout se passe à l'intérieur de ce corps qui est... Et c'est le pays de cette jeune fille. C'est le seul pays, son seul lieu. Mais en même temps, je pense qu'il serait intéressant d'un point de vue visuel, c'est que chacun d'entre nous, chaque personne, réagit très très viscéralement à la vue de l'obésité. On a beaucoup de mal avec ça par rapport à d'autres aspects, d'autres types de différences. Voir l'obésité, une personne nue, obèse, et provoque une réaction de malaise assez extrême chez chacun d'entre nous.
Et c'est peut-être... Oui, il y a un tabou par rapport à cette distance à la normalité, beaucoup plus grand que par rapport à d'autres distances, à d'autres comportements ou à d'autres visions.
Absolument, et c'est pour ça que je pense que ce serait... Donc, c'est pour ça que je la décris de cette manière dans le livre, pour vraiment faire sentir tous les aspects de vivre avec un corps hors norme. Mais peut-être, effectivement, le traiter visuellement, c'est le mettre encore plus, mettre l'autre en face de ce malaise, encore plus, de manière encore plus... je dirais pas violente, mais importante et immédiate... pour nous amener à nous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on se sent si mal à l'aise à propos de cela? Qu'est-ce qui nous fait si peur?
Alors, une dernière question, Ananda Devi, à propos de la façon dont vous avez écrit ce texte. Vous mentionniez tout à l'heure le fait qu'il était métaphorique. Il représente un peu une société de consommation, de surconsommation. En même temps, c'est un conte, c'est une fable, même si c'est une fable tragique, c'est pas très souriant comme texte. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit quand vous l'écrivez? Est-ce que c'est la métaphore qui domine? Est-ce que de temps en temps vous l'oubliez? Est-ce que c'est l'anecdote du roman qui vous prend par la main? Ou est-ce que vous suivez le fil de ce qu'il y a de façon subliminale, en filigrane, si vous voulez, de l'histoire que vous racontez?
Je crois que c'est surtout la voix du personnage qui m'entraîne, qui me manque dans cette histoire et dans les autres. C'est-à-dire, une fois que j'ai dans ma tête sa pensée, sa réflexion, même le ton de sa voix, le ton, enfin, comme on le disait, avec un peu d'ironie, etc.
Vous avez le ton de sa voix dans l'oreille quand vous écrivez?
Oui. En fait, c'est souvent... par là que passe, disons, l'inspiration ou le flux d'un roman pour moi, c'est d'avoir la voix du personnage.
Vous avez un timbre avec vous quand vous écrivez.
Voilà, exactement. Et donc, quand je rentre, je sais qui elle est, comment elle va réagir à telle ou telle chose. Et donc, c'était cela, c'était son intelligence, sa lucidité par rapport à elle-même. Mais il y avait tout le temps, l'aspect de la fable n'était pas si fortement présente au moment de l'écriture elle-même, mais elle était là en filigrane, c'est-à-dire cette envie de qu'on voit que c'est la société telle qu'elle est dans son abondance, dans ses excès, et comment on va de plus en plus vers l'excès. Je prends notre utilisation des téléphones, par exemple, qui s'est passé dans un nombre d'années assez restreint, et soudain on en a besoin encore plus. On est chacun accroché à ce téléphone, et il faut acheter le prochain, et ça ne s'arrête pas. Ou plus on a envie de davantage, et comme je disais tout à l'heure, et d'autres n'ont rien pour leur survie de base. Et ce paradoxe-là, je trouve, devient trop lourd à porter pour peu qu'on se mette à y réfléchir, pour ne pas essayer de se dire, mais comment comprendre un monde comme celui-ci ?
Eh bien, merci Ananda Devi pour cet entretien qui se déroulait il y a quelque temps à propos de votre dernier roman, Manger l'autre, qui est donc publié chez Grasset, alors même que un recueil de poèmes, Ceux du large, a été publié aux éditions Bruno Doucet. Merci d'avoir été dans cette danse des mots proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amard.